RMC, le Super Football Show, 21h-23h. C'est l'Afterfoot, Christophe Plenet.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'Afterfoot, la seule émission qui voit double et que vous pouvez donc écouter sur RMC, mais également écouter et regarder sur BFM Sport. L'After qui a pris ses quartiers d'été avec des horaires en juillet de 21h à 23h pour vous accompagner ce soir. Son titulaire, deux hommes et pas des moindres. Le premier est un lion, il est indomptable et même Jérôme Roten est jaloux de ses yeux bleus. Samuel Ikoua, bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir John.
Le deuxième est un fauve lui aussi. Il mord, il griffe, il rugit et même Jérôme Roten est jaloux de sa crinière. Jonathan Macardy, bonsoir.
Bonsoir tout le monde, salut.
Jérôme, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Tout va bien les garçons, vous êtes toujours deux heures de ouais. Folie, de régalade, d'infos et de prise de bec. Également, le programme est riche, on va le détailler dans un instant.
Tout va bien.
Tout va bien, Sam,
prêt.
Vous êtes sur RMC et vous avez fait le bon choix, vous êtes au bon endroit. Au sommaire de l'After ce soir, Thierry Henry à Aston Villa rêve de faire du meilleur buteur de l'histoire des Bleus son nouvel entraîneur. Bonne ou mauvaise idée, ce sera l'avis tranché de Samuel Ikoua dans un instant. À 21h20, le football de possession a-t-il vécu? Oui, non. Ce sera cette fois l'avis tranché de Jonathan Macardy à 21h40. Les infos du jour, il sera beaucoup question d'un certain Cristiano Ronaldo, ou devrais-je dire plutôt de Benjamin Button. Hein, CR7 aurait comme moi le physique d'un sportif d'une vingtaine d'années. On en reparlera
comme
tout à l'heure. Comme moi.
Ouais, t'as combien de masse graisseuse?
Crapule. À 22h, on ouvrira un débat sur Malcolm, pressenti hier à la Roma. Aujourd'hui à Barcelone, le respect de la parole donnée a-t-elle toujours un sens dans le foot? À 22h20, le Mercato Show, les dernières indiscrétions, les dernières informations. Et puis le quiz pour finir. On est ensemble jusqu'à 23h. Pour participer à l'émission, rien de plus simple, appelez-nous au 3216 ou avec le hashtag RMC Live sur Twitter. On démarre donc cet after avec l'avis tranché de Samuel Ikoua. Sam, tu voulais nous parler donc de Thierry Henry. On va replacer un petit peu tout ça dans son contexte. Ouais. Tout juste repris par de nouveaux propriétaires aux ambitions XXL. Aston Villa rêverait de faire de Thierry Henry son nouvel entraîneur. Les tabloïds anglais s'emballent même en faisant du français le successeur de Steve Bruce. Mais le meilleur buteur de l'histoire des Bleus ne prend-il pas un risque trop important en démarrant sa carrière en tant que numéro 1 en Championship? Ton avis,
Sam? D'abord, moi, j'avais envie de parler de lui parce que c'est quand même pas n'importe qui, hein, Thierry Henry. C'est quand même un monsieur. C'est une légende. C'est, on va pas reparler de sa carrière. Et j'étais un peu inquiet parce qu'on a vu Thierry Henry, on connaît le joueur, on a connu le consultant à la chaîne anglaise, notamment avec sa phrase Giroud, c'est bien avec Arsenal, mais on sait pas si ça peut gagner avec Giroud. Maintenant, bon, il pourra plus la dire vu qu'il est champion du monde lui aussi. Et on a connu le Thierry Henry justement qui a pris avec surprise quand même, hein, quand il signe avec les Diables Rouges, qui était chargé du secteur offensif. D'ailleurs, ça a très très bien fonctionné, hein, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, où ils ont fini avec pratiquement plus de 40 buts lors de...
On entendra d'ailleurs tout à l'heure quelques joueurs belges parler de Thierry Henry.
Voilà. Moi, j'étais un peu inquiet, hein, quand même, Christophe, hein, au début, quand il avait un peu cet empressement un peu de vouloir prendre un peu rapidement un peu la place un peu d'Arsène Wenger. J'étais inquiet, pourquoi? Parce que bon, je pense qu'il sortait un peu de son rôle de joueur. C'était un peu trop frais pour lui. J'étais inquiet aussi, pourquoi? Parce que c'est un joueur qui a pratiquement tout gagné. Il a un ego surdimensionné. On peut assimiler ça un peu à avoir le boulard un peu. Et quand ces joueurs-là qui ont tout gagné passent tout de suite entraîneur, ça peut être compliqué pour les joueurs qui dirigent. Pourquoi? Parce que ces joueurs-là, ils peuvent ne pas comprendre pourquoi un joueur qui arrive face au but n'arrive pas à faire le plat du pied comme lui arrive à le faire. Ils peuvent ne pas comprendre pourquoi le milieu de terrain n'arrive pas à donner le bon ballon à son attaquant, ou le défenseur qui n'arrive pas à faire l'intervention qu'il faut, parce que ces joueurs-là, ils ont tellement joué avec des grands joueurs et tout a été facilité pour eux. Maintenant, j'ai comme l'impression qu'il a pris un peu du recul. Comme on dit, il a un peu pris de la bouteille. J'ai comme l'impression que le costume, il arrivera beaucoup mieux à assimiler. Pourquoi? Et quelque chose me dit qu'il a quand même la chance de ses grands entraîneurs. On l'a vu avec Deschamps ou avec Zidane. Pourquoi? Parce que quelque part, je pense que ça lui a fait du bien de voir que Deschamps, quand il prend la Juve, qui est rétrogradée administrativement, en série B, il a vu Deschamps qui est quand même passé par là. Il a eu la décence et l'humilité de passer en bas.
Mais toi, tu penses qu'il va, va y arriver, parce qu'on a un peu travaillé cette émission pour les gens qui nous écoutent.
Non, mais d'accord.
Tu pensais qu'il allait un petit peu dans le mur, quand même.
Non, mais c'est très important que je finisse juste ça. Il a vu Zidane prendre l'équipe deuxième de la Castilla. Il a vu Vieira prendre aussi les jeunes Manchester City, et
puis New York en MLS.
C'est ce qui fait que maintenant, il ira pas au mur, parce que je pense que il a appris de ça. Si c'était le Henry d'il y a trois ans, je t'aurais dit, Christophe, il va directement au mur. Moi, là, je pense que il a quand même pris des enseignements. Il a mûri. Maintenant, je pense que ça sera très important pour lui de faire un peu comme a fait Vieira, c'est-à-dire s'entourer, de bien s'entourer, forcément. Et surtout, de faire en sorte que tout le monde aille avec lui dans son projet, que ce soit le magasinier de l'équipe, du club, enfin tout le monde, quoi. Pour moi, sincèrement, je crois que c'est la meilleure destination pour lui, parce que Aston Villa, attention, c'est pas n'importe qui en Angleterre. Ça a été un très très grand club. Donc
c'est plus compliqué depuis quelques temps, hein, quand même. Ils végètent en Championship, la deuxième division anglaise. Bon, ils ont raté la finale d'accession contre Fulham dernièrement. Mais apparemment, Thierry Henry attendrait des garanties quand même pour s'engager, car la Championship, hein,
c'est compliqué.
Il choisit pas la facilité, en tous les cas, s'il s'engage avec Aston Villa pour démarrer.
Quoi qu'il arrive, il sait qu'il sera épié quand l'attend au tournant. Ça c'est clair.
Surtout en Angleterre,
parce que bon, voilà. Non mais il faut commencer quelque part. Moi, je pense honnêtement, je pense que c'est le meilleur club où il pouvait atterrir, et le mieux pour commencer vraiment ce travail de manager.
Il aurait pas pu démarrer en première ligue quand même, Thierry Henry?
Je sais pas, c'est une question d'opportunité. Après, je pense qu'il est intelligent de pas voir non plus les choses trop grandes. Sam, t'as raison, je pense que c'est bien de faire étape par étape, comme Sam nous l'a décrit. Après, moi, sur la question du boulard, ça me dérange pas. Regardez, Guardiola, il a pas un boulard énorme. Guardiola, il a un boulard qui dépasse
quand je parle de boulard, mais Guardiola, il a commencé par où? Il a commencé en bas aussi, quand il a commencé à Barcelone.
Oui, mais là, Thierry Henry, il a son expérience en Belgique, d'avoir été numéro 3. Je pense que aussi, c'est un joueur qui est quand même à part vis-à-vis des autres pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a une aura qui est surtout en Angleterre, qui est vraiment immense. C'est une légende en Angleterre, encore plus qu'en France.
Non, mais au-delà du fait que ce soit une légende, on est d'accord, mais il n'a jamais entraîné. Okay, être numéro 3 avec la Belgique, c'est pas avoir un club tous les jours, avoir 25 joueurs.
Je pense que quand il va rentrer dans le vestiaire, tous les joueurs vont
seulement 11 qui vont jouer, quoi.
Tous les joueurs, quand il va rentrer dans le vestiaire, encore plus en Angleterre, vont l'écouter, parce qu'il a une aura. Je pense que, tu vois, s'il dit à un joueur de faire ci, de faire ça, je pense que ça va pas moufter. Déjà, ça, je pense que c'est un point pour lui. La deuxième chose, c'est que je pense que c'est un joueur qui est, c'est le joueur français qui a qui a la plus grande culture et la plus grande science du foot. Il suffit de l'entendre parler, on pourrait l'entendre parler de football pendant des heures. C'est incroyable le nombre de matchs qu'il peut regarder, qu'il peut décortiquer. C'est incroyable comment ses remarques sont pertinentes. Donc, il connaît vraiment le sport. Et le troisième chose, c'est que, effectivement, enfin, je te rejoins, Samuel, là-dessus. La clé, ça va être de s'entourer. Il va falloir que son staff soit béton pour l'accompagner dans cette première expérience.
Et il faudra énormément de travail, parce que ça demande énormément de travail. Le métier d'entraîneur, c'est-à-dire, ça commence à 8h, ça risque de finir à minuit. C'est-à-dire que il faudra quand même qu'il prenne aussi sur lui.
T'as entraîné, toi?
Mais moi, j'ai entraîné des jeunes. C'est encore un autre.
Et t'as
chose.
T'as jamais voulu.
Mais disons que j'ai été bloqué à un moment par les diplômes, parce que les diplômes extrêmement cher. Donc c'est un peu ça qui m'a bloqué. Sinon, j'aurais voulu passer le pas. Non, mais pour revenir Henry, c'est un travail très très dur, c'est-à-dire que il faudra qu'il prenne sur lui.
Mais justement, Sam, tu en parlais tout à l'heure, tu parlais du garçon qui a un ego surdimensionné. Il en faut, hein, de l'ego pour être arrivé là où il est. Mais là, il va être entraîneur, il va être sous le feu des projecteurs, il va être forcément critiqué. Comment il va gérer ça?
Mais justement, ce qui va lui permettre de gérer ça sera d'abord ses joueurs, c'est comment il se comporte avec ses joueurs, comment les résultats qu'il donnera. Si effectivement les résultats ne sont pas là, qu'il y a quelques accrochages
en D2 anglaise, il aura pas CR7, Modric, Varane.
Et c'est un championnat qui est très compliqué.
Comme Zidane a
c'est
pu
très compliqué. Le niveau est très élevé,
Non mais sauf que Zidane, il a eu des difficultés aussi avec la Castilla. Il a eu énormément de difficultés aussi. Il gagne au départ, il a eu des difficultés. Ces trois premiers mois, il a eu des difficultés.
Oui, tu parles de ça. Oui,
c'est ce que je veux dire.
Global, bon, non, mais
maintenant, il faudra mettre un schéma, un système de jeu en place qui lui permettra justement de faire en sorte que il ne soit pas non plus critiqué toutes les semaines. On sait que il pourra pas déployer le jeu peut-être du Barcelone. On sait que c'est un homme qui aime le jeu. peut-être que en championship, le jeu, tu pourras pas le faire, ouais. Il sera obligé
c'est un championnat de toute manière qui est très rugueux, qui est très dur, il y a une très grande densité physique, faut être costaud, faut des joueurs qui sont costauds, c'est l'esthétique parfois tu mets un grand shoot dedans parfois, mais c'est un beau premier défi. C'est effectivement peut-être plus compliqué de prendre un club en championship que de le prendre en première ligue. Parce que pour ces raisons évoquées, il y a des équipes beaucoup plus dures. Enfin, c'est vraiment voilà.
C'est hard,
mais en tout cas, on peut être d'accord sur une chose tous les trois, c'est qu'on a super hâte de le voir commencer, quelle équipe il met en place, quelle est sa philosophie de jeu, si tout ce qu'il ira.
D'autant que s'il vient, il y aura des moyens.
Non, ouais. Mais peut-être que la philosophie de jeu, on la verra pas, parce que comme vient de le dire Christophe, c'est un championnat âpre où il faut vraiment montrer le bloc de chauffe tous les week-ends, parce que si tu veux vouloir faire des petits ponts, je crois que tu vas finir vite dernier.
Moi, je vous dis, j'ai vu les matchs de prépa de Leeds.
De Bielsa.
Ouais. Excellent. C'est pas mal quand même.
Oui, mais attends, d'accord. Mais t'as vu Bielsa, c'est au pressing tout le temps.
Ah ouais.
C'est au pressing, c'est
dingue.
Bah, c'est Bielsa à Leeds et Frank Lampard à Derby County.
Ouais, c'est le 3-3-1-3 qu'on avait vu à Marseille avec pressing tout terrain, les latéraux qui sont à la place des ailiers. Enfin, c'est totalement.
En tout cas, ce métier, c'est une obsession. Ça te mine, mine et jour, nuit et jour, parce que tu peux te réveiller en sursaut comme ça, la nuit.
Est-ce que tu te réveilles en sursaut avec tes jeunes?
Non, quand même pas, parce que bon.
Est-ce que t'allais les chercher, les prendre par la peau du cul, leur dire, allez, tu vas te coucher, ou?
Non, mais j'ai beaucoup aimé entraîner les jeunes, même si c'était un peu compliqué aux États-Unis, parce que bon, c'est pas encore la culture là-bas, vraiment aux États-Unis.
Il y a
tout à faire, et bon, on avait quand même des enfants un peu d'une certaine classe, quoi. Bon,
on fera un débat autour de Samuel Lipoua, l'entraîneur, mais on va se concentrer quand même sur, Thierry Henry, vous êtes énormément nombreux à réagir sur Twitter avec le hashtag RMC Live et au 32-16. On va accueillir d'ailleurs au 32-16 Mathieu, supporter de Monaco notamment. Bonsoir Mathieu.
Salut les amis.
Salut Mathieu.
Tu voulais réagir donc au cas Thierry Henry. Henry, entraîneur, t'y crois, mais pas forcément à Aston Villa, c'est bien cela?
Ben voilà, moi en fait je l'ai vu débuter en tant que joueur. J'étais jeune, je devais avoir une dizaine d'années quand je l'ai vu débuter vraiment à Monaco. Et toute sa carrière, en fait, je l'ai trouvé extraordinaire, ce mec-là. C'est un compétiteur. Et je pense que, bon, Aston Villa, c'est vrai que c'est un pari risqué, parce que la Championship, vous l'avez dit, c'est physique, c'est pas forcément du beau football, etc. Mais ça sera tout de suite pour lui, justement, une remise en question sur ce qu'il veut vraiment faire dans le football et voir autre chose. Moi, je pense que d'ici 2-3 ans, il sera dans un grand club. Et là, c'est vraiment pour se faire la main, en fait. Et ils ont de la chance de l'avoir, parce que un mec comme ça qui signe en Ligue 2 anglaise, fallait aller le chercher, parce qu'il a pas eu beaucoup de propositions, et ça m'étonne d'ailleurs. Moi je sais pas, un Thierry Henry qui a envie d'entraîner, mais si j'avais un club UP type Chelsea par exemple, qui était en galère
Mathieu, on va parler d'Arsenal. Est-ce que les Gunners sont pas passés à côté de Thierry Henry? Pourquoi Thierry Henry n'a pas fait ses gammes aux côtés d'Arsène Wenger pour lui succéder ensuite?
Une petite guéguerre d'ego entre les deux.
C'est Arsène Wenger et Thierry Henry, ça s'entendait pas vraiment.
Vous voulez pas abandonner aussi son rôle de consultant chez Skype?
Thierry Henry a eu son rôle de consultant chez Skype et des brouettes d'argent. Je pense qu'il a eu des mots qui ont sûrement déplu à Arsène Wenger, notamment sur le cas Olivier Giroud. Et puis voilà, il était dans son rôle, t'es consultant, t'es pas là pour brosser les gens dans le sens du poil. Donc, on sait que ça a créé quelques tensions et que le projet de faire d'Henry, de le mettre dans l'organigramme, de lui faire prendre une équipe de jeunes et tout, c'est à ce moment-là que ça a un petit peu capoté.
Non, mais surtout que c'était quelque chose, je pense, qui était prévu du côté d'Arsenal.
Oui,
je pense que
il a comme sa statue devant le stade.
Je pense que Wenger et le
joueur du siècle.
Je pense que Wenger souhaitait ça. Maintenant, c'est vrai que cette petite guéguerre et le fait qu'il ait été soit désagréable avec certains membres de son équipe, c'est normal qu'après, il a poussé un peu vers la sortie.
Et pour vous, c'est plus facile de commencer avec Aston Villa qu'avec Arsenal?
Non. Enfin, pour moi, non, personnellement.
Mais après, ça peut être difficile. Christophe, imagine, tu commences avec Arsenal, tu te plantes, tu vas où? Après, est-ce que les grands clubs vont faire appel à toi? Je ne pense pas. Après, maintenant, je pense que tu peux éventuellement ne pas faire une grande saison avec Aston Villa, et je crois que Arsenal sera toujours prêt à le prendre.
Oui, parce qu'il y a
pourquoi...
des circonstances atténuantes.
Mais exactement.
Tout ce qu'on a listé.
Mais je pense pas qu'il se casserait la gueule justement en prenant un club comme Arsenal, parce qu'il connaît la maison et il y a joué tellement d'années, etc. Et puis c'est quand même quelqu'un qui peut pas se planter dans son football, parce que lui, c'est vraiment du football beau. Et en première ligue, le beau football, enfin voilà, ça perdure. On a vu Liverpool cette année, ce que ça a donné, le foot offensif, Manchester City, tout ça. Moi, je pense que ce mec-là, il doit être en première ligue d'ici un an, deux ans, voire trois ans. Mais là, il va se faire la main avec Aston Villa. Et je lui souhaite bonne chance. Et je pense qu'il va réussir. C'est clair.
Non, j'en doute pas. C'est un garçon qui était voué à devenir entraîneur.
Tu l'as entendu déjà sur la Sky. C'est le mec qui pue le foot, quoi, vraiment. Il pue le foot. C'était une évidence.
Non, mais en plus, ce qui est extraordinaire, il peut te sortir des noms des mecs qui jouent en troisième division, quoi. Ouais. En national, c'est extraordinaire. C'est que, il peut te dire le but qu'il a marqué en 2002, contre qui, il sait comment ça s'est passé, le mec qui lui a fait la dernière passe.
Je pense qu'il connaît.
C'est extraordinaire, quand même. C'est que le gars, il vit vraiment pour le ballon.
Je pense qu'il connaît déjà l'ensemble de l'effectif qu'il va avoir. Je pense qu'il connaît déjà l'ensemble des effectifs des autres équipes de Championships. Moi, là-dessus, sur connaître le contexte, je pense qu'il s'engage pas là-dedans en y allant à l'aveuglette.
C'est pour ça que je pense que sa réponse aussi tarde à arriver. Je pense qu'il est en train de faire un revue d'effectifs.
Et surtout, Sam, encore une fois, il demande des garanties concernant son salaire, son staff, parce qu'il va pas venir tout seul à Birmingham, et également quel sera le montant de l'enveloppe de recrutement.
Il faut avoir envie de vivre là-bas.
Je peux vous faire une petite confession, si vous voulez, sur Thierry Henry. Il y a le papa de ma copine qui l'a entraîné quand il était jeune à Monaco. Et il m'en a beaucoup parlé parce que c'est un joueur qui l'a énormément marqué, en fait. Et il m'a dit que en tant que jeune joueur, déjà, type, je sais pas, il devait avoir 15, 16 ans, il était déjà en train de discuter avec l'entraîneur pour les tactiques, les mises en place, etc. C'était déjà quelqu'un qui était voué en tant que joueur à discuter jeu, à discuter tactique et tout. Moi, franchement, je vous dis vraiment, j'ai aucun doute sur lui, et j'ai vraiment hâte de le voir, et quelque part ça va permettre aux supporters français, européens, etc., de suivre un petit peu la deuxième division anglaise, parce que c'est vrai que c'est pas trop suivi, on regarde plus la première ligue. Là, je pense qu'avec Thierry Henry, on va regarder un peu plus.
Avec Bielsa, c'est sûr qu'on va regarder
un gros coup de projecteur sur la Championship. Monaco quand même pour Thierry Henry, Londres, Barcelone, là atterrir à Birmingham, ça va être compliqué, ça, quand même, pour Titi, non?
Non, mais pourquoi compliquer? De toute façon, il connaît l'Angleterre, ça fait pratiquement 15 ans qu'il est là-bas. Non, mais je sais bien. Non, mais en plus, je pense que vous vous rendez compte des entraîneurs quand même qu'il a connus, quand même. Il a pas connu les moindres, vois. Donc, je pense que qu'est-ce qu'il va leur apporter? Ça a pratiquement pas de prix, quoi, pour Aston Villa.
Merci beaucoup, en tous les cas, Mathieu, de nous avoir appelé au 32-16.
Merci, Mathieu.
Réagir. Vous êtes très nombreux, du reste, à réagir au 32-16 sur Twitter avec le hashtag RMC Live et sur l'application RMC Sport Direct Studio. Je vous propose, Jonathan et Samuel, d'écouter quelques Belges, donc, concernant Thierry Henry, entraîneur. On rappelle que Thierry Henry, donc, qui était dans le squad des Diables Rouges, l'un des adjoints de
ils ont le seum toujours, les Belges,
lors de la Coupe du Monde.
Ça va, ils sont détendus là.
On va écouter Nasser Chadli et Axel Witsel notamment, et on en
parle
juste après.
Il apporte son expérience à tout le monde, que ce soit attaquant, milieu et défenseur. C'est quelqu'un qui a vécu ces moments, qui a été à la gloire de ces moments, donc c'est quelqu'un qu'on veut écouter tout le temps.
Thierry Henry était une, voire l'idole de jeunesse, qui est là pour apprendre à comment on gère une sélection, à apprendre avec Martinez, qui est quand même un grand tacticien, et en même temps, lui, il aide nos attaquants.
Quand tu le vois pour la première fois, tu le regardes un peu, je veux dire, comme un fan, mais bon, après, ça devient... Je veux dire une habitude, et tu le vois différemment.
On l'a entendu dans les mots d'Axel Witsel. C'est vrai que les joueurs belges le voyaient un petit peu comme une icône, un fan. C'est vrai que c'est un garçon extrêmement charismatique. Zidane a réussi, Deschamps a réussi, Blanc a réussi. Il est inconcevable que Thierry Henry ne réussisse pas en tant qu'entraîneur.
Concevable, on n'est pas Madame Irma, mais c'est vrai que moi ça m'étonnerait vraiment que ça marche pas, quoi. Alors je sais pas si ça marchera à Aston Villa, mais ce dont je suis sûr, c'est que ça finira par être un super super entraîneur. Il y a aucun souci là-dessus.
Justement, c'est franchement, si ça se confirme, c'est quand même le deuxième plus grand événement de l'année après la victoire de l'équipe de France, quoi. Parce que quand même, c'est on sait pas, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est pas n'importe qui. C'est quand même, bon, c'est le 8e champion du monde, je crois, ou 7e qui devient coach.
C'est le 3e meilleur joueur de l'histoire du foot français, on peut dire ça.
Voilà,
comme ça.
C'est extraordinaire. En plus,
vous avez vu Platini, Zidane et lui.
Vous avez vu les Belges quand ils en parlent? Les yeux qui brillent, les étoiles qui sortent de la bouche, c'est extraordinaire.
Allez, on va accueillir Adrien au 32-16. Salut Adrien.
Salut toute l'équipe.
Salut Adrien.
Alors toi, tu es persuadé qu'il va réussir à Birmingham, donc avec ce club d'Aston Villa?
Ouais, totalement. Ouais. Franchement, ça serait une super super idée d'aller là-bas. Déjà parce que Aston Villa, c'est un club de Londres et que ça serait un
Birmingham.
Pardon, excusez-moi, autant pour moi.
C'est pas pareil, t'as fait, hein.
Ouais, c'est pas la même chose.
C'est moins sexy.
Chose.
Quand tu habites, c'est pas pareil au quotidien.
Ouais.
Tu sors premier chien, bon, c'est pas la même vue.
Tu sors souvent avec le parapluie.
Après, bon, ça serait vraiment bien. Puis on peut voir, Laurent Blanc, il a commencé au PSG, Zidane,
non,
bon,
à Castilla,
mais
Bordeaux.
Vite, à Bordeaux, pardon, mais je veux dire, il a eu très vite.
Oui, il a très vite pris la main, Laurent Blanc.
Après Zidane, il a eu la Castilla, mais il a eu Madrid après, donc il y a eu des joueurs tout confirmés. Je pense que ce serait une erreur de penser qu'il faut qu'il aille à Arsenal tout de suite. Au contraire, il faut qu'il fasse ses preuves et qu'il fonce après, quoi, et qu'il fasse son bonhomme de chemin. Mais c'est un super mec.
Je pense que effectivement, parce que je pense qu'il faudra, qu'il fasse ses preuves effectivement sur le terrain. Mais je pense aussi que ce qui sera très important aussi, je pense que c'est son comportement aussi avec la présidence. Avec aussi ça aussi, je pense que ça va être primordial aussi pour lui, parce que bon, parce que je sais pas, j'espère que le fait qu'il ait tout gagné, qu'il a un ego surdimensionné, ouais, ne fera pas en sorte que ça va souvent au clash avec ses patrons.
Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on sait que c'est quelqu'un qui a il a une très forte estime de lui-même, mais c'est surtout quelqu'un de très intelligent. Je pense, c'est vraiment quelqu'un qui est un des joueurs les plus intelligents que j'ai jamais entendu parler, et je pense qu'il est pas bête. Il va arriver, il va pas non plus se mettre à faire des pieds et des mains pour des broutilles. Je pense qu'il se comportera en bonne intelligence pour que ça se passe bien. Pourquoi? Parce qu'il sait que les caméras et les projecteurs vont être braqués sur lui. Il sait qu'il a pas intérêt à se griller. Il sait qu'il faut que l'expérience soit positive, et du coup je pense qu'il aura le comportement adéquat.
Justement, par rapport à son ego, son charisme, sa haute estime de lui, ça aurait été problématique pour lui de démarrer en France, par exemple, sa carrière d'entraîneur.
Moi, ça me dérange. Pourquoi ça vous dérange qu'il soit...
C'est une question que je pose, Jonathan.
Moi, je sais pas, juste Guardiola, bon, c'est vrai qu'il commence à prendre les jeunes à Barcelone.
Pourquoi personne n'a pensé à lui, à part Aston Villa?
Mais peut-être qu'il a pas envie de venir en France aussi. On sait pas. Je pense que le championnat d'Angleterre, il le connaît mieux que la Ligue 1, déjà. Il a évolué pendant des années. Il est consultant sur la Sky. Il connaît, c'est un contexte qui est familier. Je pense que c'est mieux pour lui d'aller en Angleterre.
Non, mais moi, je suis d'accord avec Christophe. Moi, je crois que personne ne le voulait en France.
Aussi, peut-être.
Voilà, je crois que personne.
Mais dans les deux cas, je pense que c'est mieux pour lui d'être en Angleterre.
Ah oui, non, mais
il connaît mieux le contexte.
Et lui, il avait plus envie, d'ailleurs, de commencer là-bas. D'ailleurs, il a passé ses diplômes là-bas. Il aurait pu les passer ici.
C'est vrai.
En France aussi.
C'est très, très juste comme remarque.
Voilà, il les a passés là-bas. Et donc, moi, je crois que en France, personne ne voulait, ou personne n'a pensé à lui, du moins, et lui, il n'avait pas envie de commencer ici. Je crois que quelque part, il a aussi ça un peu comme motivation, de montrer que, ah d'accord, vous n'avez pas voulu de moi, donc voilà. Non, mais ça peut être aussi une source de motivation supplémentaire.
On verra ça en tous les cas dans les jours, dans les semaines qui suivent, si Thierry Henry donc s'engage avec le club de Birmingham, de manière,
Christophe
Villa.
Il sera pas champion, hein. Ce sera Marcelo Bielsa.
On verra. Adrien, merci beaucoup de nous avoir appelé au 32-16. À bientôt. Une petite respiration et l'After Foot revient dans un instant. Il sera question notamment de beaux jeux, de jeux de possession. Ne bougez pas, tout de suite.
RMC, le Super Football Show, jusqu'à 23h, c'est l'After Foot, Christophe Plenet.
Il est 21h25, vous êtes sur RMC, vous êtes dans l'After Foot avec Samuel Ipoix, avec Jonathan McCarty. Et continuez de nous appeler au 32-16 pour réagir, ou sur Twitter avec le hashtag RMC Live. Tout de suite, c'est l'avis tranché de Jonathan McCarty. Jingle.
Celle du bisounours CI, quitte à résister aux objurgations des esprits chafouins. La déception un petit peu conjoncturelle de cette non-qualification. C'est que t'aimes pas ce Monico, mais pénalise l'équipe.
Là, j'ai tout compris. Quel talent, quelle culture, ce jeu.
J'essaie d'aider Jérôme Breton à s'exprimer. Non, mais c'est surtout pour Jérôme. Mais...
T'as du mal. Il a du mal à suivre.
Ouais, voilà, faire rentrer ça, de manière un peu plus forte.
On t'embrasse. Alors, la victoire des Bleus, les échecs espagnols et allemands suggèrent qu'il vaut désormais mieux abandonner le ballon à l'adversaire. Tournant historique ou simple rappel au réalisme, en tous les cas, le football de possession a-t-il vécu? Oui, non. Ta réponse.
Ma réponse, c'est que le football de possession est mort, mais vive le football de possession. Alors, on sort d'une saison avec 5 faits marquants. Le premier, c'est la 3e victoire en Ligue des Champions d'un Real pas obsédé par la possession du ballon et qui est surtout létal en contre. On a le deuxième fait, c'est le parcours tout en transition survoltée sur les rythmiques heavy metal de Kloppienne de Liverpool. Le troisième, c'est une nouvelle victoire de Diego Simeone, le triomphe du cholisme sur la scène européenne avec cette victoire en Ligue Europa. Le quatrième, c'est la victoire des Bleus à la Coupe du Monde, c'est une des rares équipes qui a été championne du monde en ayant moins de 50% de la possession du ballon. C'est ultra rare dans l'histoire du football. Et le cinquième fait, c'est les éliminations sans gloire de ces chantres de la possession que sont l'Allemagne et l'Espagne. Donc depuis la fin de la la Coupe du Monde, j'ai entendu beaucoup de gens s'accorder à dire bah, que le football de possession, c'était ringard, fallait arrêter, c'était devenu totalement has-been. Maintenant, fallait tout miser sur un plan de jeu, tout faire de transition rapide, attaque-défense, que ça y a mille à l'heure. J'ai entendu beaucoup d'analyses et d'opinions aller dans ce sens-là, et ça, c'est vrai que ça avait commencé un petit peu après l'Euro 2016, quand le Portugal avait gagné de cette manière-là. Mais voilà, maintenant... On a l'impression que vraiment les transitions sont devenues le nerf de la guerre de chaque entraîneur et qu'il faudrait que ce soit comme ça. Moi déjà la première analyse que je tire de tout ça, c'est pourquoi opposer les deux ? Il s'agit certes de deux approches du football différentes, possession et transition, mais elles ont toutes les deux le même but. Et le même but, qu'est-ce que c'est ? Alors vous allez me dire c'est la victoire, évidemment. Mais non, le même but tactique, c'est la maîtrise spatio-temporelle de la partie. Alors je m'explique, pour l'école de la possession, la maîtrise de l'espace, bah c'est l'occupation de la moitié du terrain adverse et de faire en sorte que ton équipe soit positionnée dans le camp de l'adversaire.
Pour les
chantres de la transition, la maîtrise de l'espace, c'est la création de verticalité dans la profondeur pour essayer de se projeter vite en contre. Pour l'école de la position, la maîtrise du temps, bah, c'est la maîtrise du tempo du match. C'est eux qui s'est dicté le tempo du match au rythme des passes et au rythme du rythme des passes. Pour les gens qui sont plus du côté de la transition, la maîtrise du temps, bah, c'est insérer des soubresauts furieux avec des contres ultra rapides vers l'avant. Donc si on admet que le débat aujourd'hui c'est entre ces deux projets de jeu déjà, c'est un mieux. On est loin en fait des déclarations de Mourinho quand il était devenu la caricature de lui-même et qui disait bah écoutez, moi avoir le ballon ça m'intéresse pas, et je vais le citer parce qu'on a l'impression que c'est un petit peu... Non, vraiment, c'est une citation de Mourinho. Je ne veux pas la possession du ballon, parce que quand tu as le ballon, c'est là où tu fais le plus d'erreurs. Donc moi, ça m'intéresse pas, j'attends les erreurs de mon adversaire. Ça, c'était vraiment la caricature du Mourinho, et qui a quand même influencé pas mal de coachs, notamment, j'ai l'impression, en Ligue 1, on était obsédés par ça. Et donc voilà, maintenant, si ça, c'est devenu ringard, et que le débat philosophique... comme on peut avoir par exemple dans les vrais pays de football, comme en Amérique latine, où il y a des écoles de pensée qui s'affrontent. Si le débat entre les deux écoles de pensée, c'est transition et possession, bah c'est déjà une avancée qui est vraiment très bien. Petite parenthèse, si je vois le contre-argument venir, ne me parlez pas de l'Atlético pour me dire que c'est du béton et que c'est pas beau, parce que ça serait vraiment ne pas regarder les matchs de l'Atlético Madrid. Donc ce que je pense, au final, et c'est là où je veux en venir, c'est que le football de possession, bah il est pas mort et loin de là. Tactiquement, en fait, si on se penche sur la question, dans un football de possession, qu'est-ce qui est important? Bah c'est d'avoir des milieux techniques, d'avoir des attaquants techniques, d'avoir des joueurs qui savent faire des passes, mais surtout, on a tendance à oublier, tout repose sur la qualité des défenseurs centraux et du mec devant la défense. Pourquoi? Parce que quand t'as le ballon et que tu joues haut comme ça dans le camp de l'adversaire, t'es vraiment exposé au contre de ton adversaire. Et on a d'ailleurs vu Guardiola quand il arrive à Manchester City, les dépenses pharaoniques qu'il a engagées sur sa défense. Il a une défense à plusieurs, je sais pas combien de patates, à combien de milliards. Donc on voit bien que c'est un poste qui est fondamental. On sait l'importance qu'a eu Busquets dans les conquêtes du Barça. On sait l'importance qu'ont eu Puyol et Piqué.
Il a remporté la Première Ligue, mais en Ligue des Champions, walou.
Attends, je vais y venir, mon ami. Mais donc quand on se penche sur les mésaventures allemandes et espagnoles en Russie. Ce qu'on voit, c'est que du côté de l'Allemagne, on n'a pas eu l'héritier du Philipp Lahm 2014 qui avait été repositionné devant sa défense. Du côté de l'Espagne, Busquets, il est hors de forme et on n'a pas vraiment remplacé Xabi Alonso. Et on voit que les paires d'axios de ces deux sélections étaient quand même assez hors de forme après des saisons éreintantes à plus de 50-60 matchs. Donc ces deux sélections, c'était des projets en construction. Ça fait des années que Joachim Löw est à la tête de l'Allemagne. Ça fait des années qu'il y a eu cette révolution du football espagnol qui a contaminé toute la fédération et qui a fait que depuis les équipes de jeunes jouent de la même manière. Ce qu'il faut constater, c'est que c'est pas la fin du football de possession. C'était juste deux équipes qui étaient soit en fin de cycle, soit en train d'en commencer un nouveau. Et je pense particulièrement à l'Espagne qui a quand même une palanquée de jeunes joueurs qui arrivent. Donc voilà, moi je trouve aussi que c'est logique que quand tu t'es en sélection, tu pars au plus pressé. Ce style de jeu, faire avoir un jeu, un plan de jeu en possession, ça prend du temps. Et quand tu arrives en sélection, que t'as tes joueurs,
oui, tu déraisonnes tout.
Non mais t'es pragmatique.
On veut de la passion, on veut de la sueur.
Alors attends, t'es pragmatique. Comme Deschamps, ce qu'il a fait, c'est du pragmatisme.
Je déteste ce mot être pragmatique. on peut gagner.
Ce que je te dis, Christophe, c'est que alors mais ça, jouer bien, ça c'est autre chose. Ça mérite un autre avis tranché parce que ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est beau, ce qui est pas beau, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le football de possession, il ne peut exister en sélection que si c'est un projet qui est fédéral. Alors cette logique de fin de cycle, elle est aussi valable pour certains clubs qui se sont cassés la gueule en Ligue des Champions. Valverde l'a bien compris avec son Barça, il est en train de métamorphoser son Barça. Ils sont passés en 4-4-2, ils ont laissé leur 4-3-3 traditionnel, ils sont séparés de leur directeur technique qui gérait toutes les équipes de jeunes, d'ailleurs Xavi l'a déploré. On voit bien aussi le PSG d'Emery, Emery qui est à la base arrivé pour mettre plus de verticalité mais qui a finalement repris le style de Laurent Blanc à base de possession. On voit bien que il y avait un problème parce que Thiago Motta il y avait plus Thiago Motta cette année, il y avait plus joueur si important devant la défense qui était un peu leur Busquets. Donc voilà, mais cependant dire que le football de possession est mort, j'y crois pas. Guardiola, il a roulé sur la Première Ligue en jouant comme ça. Sarri, il a fait avec une équipe qui est somme toute en termes d'individualité assez moyenne, il a fait du Napoli une des plus belles équipes d'Europe, une des équipes les plus passionnantes à avoir joué. Tu parlais de passion, bah voilà, je t'en envoie de la passion à la tronche, monsieur Sarri et le Napoli. Et nous, on est vraiment juste à la fin d'un cycle. Ces équipes là, on sait que quand on veut mettre en place ce style de jeu, ça demande du temps, et absolument ces équipes là étaient c'est un petit peu conjoncturel en fin de cycle. Donc si Guardiola l'année prochaine il vient gagner la Ligue des Champions, et si Sarri roule sur la première ligue avec son Chelsea, qu'est-ce qu'on dira? Alors ma conclusion, c'est de dire qu'il faut pas en tirer justement des conclusions trop rapides. Le football, il est fait de cycles. Les victoires du Real et des Bleus, ça veut pas dire grand chose si ce n'est qu'à l'heure actuelle, le pragmatisme, c'est quand même super important. Deschamps a été pragmatique avec ses Bleus. Il a décidé de regarder. Il a pas beaucoup de temps. Il a mis ça en place. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est du pragmatisme. Zidane, il a été pragmatique avec le Real. Et d'ailleurs, c'est amusant de voir à quel point Zidane et Deschamps ont un peu cette même approche pragmatique, alors qu'on veut tant les opposer. Mais bon, bref, pour conclure, en revanche, ce qui est vrai, c'est que il suffit de regarder les subtiles évolutions du jeu de Guardiola, de la philosophie Guardiola depuis qu'il est arrivé en Angleterre. Et ce que je pense, c'est qu'on assiste à une phase de rééquilibrage de cette philosophie de la possession. Donc dire que le football de possession est mort, je n'y crois pas. Je pense que c'est un football qui est encore tout à fait pertinent. Par contre, ce qui est mort, c'est le dogme de la possession. Et je pense que c'est ça qui a mené à leur perte l'Espagne et l'Allemagne. L'Espagne qui était devenue la caricature d'elle-même, à vouloir chercher la possession à tout prix, à quasiment vouloir rentrer dans le but avec le ballon. L'Allemagne pareil. Et je pense juste qu'on assiste à une sorte de rééquilibrage où on va être un petit peu plus pragmatique et on va adapter ce style de jeu de possession. Mais je pense qu'il y aura toujours des équipes qui auront 70% de la possession du ballon, qui gagneront la Ligue des Champions et qui nous présenteront des très belles choses.
Ouais, en tous les cas, c'est plus le cas actuellement, ce jeu de possession.
Et Guardiola,
qu'est-ce que t'en penses, Sam, toi? Il y a Athem Ben Arfa qui a fustigé le jeu des Bleus, à l'issue de la Coupe du Monde. Est-ce que je vais être un petit peu trivial, mais est-ce qu'on est obligé de s'emmerder pour gagner?
Moi, en tout cas, il est pas né celui-là qui me fera penser le contraire au niveau de la possession. Moi, je suis un partisan. Je prônerai toujours le jeu de possession. Certainement pas celui-là qu'on a vu effectivement avec ces deux nations-là. Moi, je veux de la fulgurance, je veux des déplacements,
Espagne,
des changements
Allemagne,
de rythme.
Tu parles, ça.
Espagne et l'Allemagne. Pourquoi l'Espagne et l'Allemagne ça n'a pas marché? L'Espagne et l'Allemagne ça n'a pas marché. Regardez Diego Costa. Est-ce que Diego Costa est fait pour un jeu de possession? Quand tu as du côté de l'Allemagne un Werner ou un Mario Gomez, c'est peut-être pas ces éléments-là qui te faussent. Et surtout, quand t'as le jeu de possession, si tu as des avant-centres qui sont pas efficaces ou qui croquent, tu vas droit au mur. Le jeu de possession ne marchera absolument pas avec ces équipes-là.
Exactement.
Et après, on a vu quand même si ces équipes-là, se sont arrêtées, mais on a vu quand même un super jeu de possession avec le Brésil, le Mexique, avec la Croatie. C'était un jeu qui allait rapidement, qui était en possession.
Ouais, mais ça gagne déplacé. Pas, Sam.
Non mais ça gagne. La Croatie, il a manqué d'un peu pour qu'elle gagne pas.
Mais tu m'as dit que tu voulais des émotions, Christophe. Je voulais des émotions, ouais, la victoire. D'accord, faut être cohérent un peu, mon garçon.
J'entends bien. La Croatie, certes, elle va en finale, mais trois fois, elle se qualifie au tir au but.
Ouais. Juste pas ajouter un truc, parce que c'était super intéressant ce que tu disais sur le fait que c'était important d'avoir un neuf qui marquait. Et aussi, je pense, ces deux équipes, ce qui leur a manqué, c'est qu'elles n'avaient plus ce métronome au milieu du terrain, donc l'âme en 2014, et puis Xavi et Iniesta, qui sont capables d'accélérer le jeu. Parce qu'à un moment, c'est ça qu'il a manqué à ces deux équipes, c'est d'avoir un changement de rythme.
Un changement de rythme.
Voilà, c'est ça. C'est ça qui est très chiant d'ailleurs quand t'as la possession, et si t'as pas ce métronome là, ce cerveau derrière pour dire allez, c'est le moment d'accélérer. C'est redondant, c'est vrai.
Et il faut de l'imagination aussi, il faut des joueurs, il faut des penseurs, il faut de la créativité. Et on trouve, et c'est vrai que les Allemands ou les Espagnols, on a senti qu'il y avait plus ça. On sentait que c'est vraiment.
Non mais Sam, on n'est pas là pour faire le procès de Didier Deschamps, hein. C'est pas notre rôle. Didier Deschamps, il a remporté la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Tu peux pas me dire qu'il avait pas des joueurs à sa disposition qui sont des joueurs créatifs, qui sont des techniciens.
Pas le temps.
Pourquoi il a abandonné la possession du ballon?
Mais pas le temps, mon ami.
Non mais tout simplement, lors des éliminatoires, on a souvent critiqué un Pogba trop haut. Il a voulu essayer un peu avec un Pogba un peu dans le, qui prend un peu le jeu à son compte, et on a vu que ça marchait pas. On a énormément critiqué Pogba dans ce positionnement là. Mais Mais un staff, un entraîneur a droit d'être intelligent, de se dire que je vais au mur et je vais pas foncer au mur comme ça bêtement.
Exactement.
Et il a tout simplement fait, il s'est tout simplement dit, attendez.
Mais pourquoi tu t'appuies pas d'abord sur tes propres forces plutôt que
là, tu trompes,
de te quinter sur les faiblesses d'un adversaire?
Non, mais Christophe, tu trompes parce que s'il y a bien une chose, un secteur dans lequel l'équipe de France, d'une part, n'a pas les joueurs et d'autre part est mauvaise, c'est dans les attaques placées. On n'a pas une équipe pour faire des attaques placées. On a une équipe qui est très rapide avec beaucoup de vitesse, beaucoup d'explosivité. Mais on n'a pas ce joueur capable d'être vraiment un, je sais pas, tu sais, je me perds un peu dans mes pensées, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment on pensait qu'on gagnerait pas de Coupe du Monde sans Zidane et sans Platini, sans ce numéro 10 capable de faire ça. On a pensé Griezmann ça serait ce joueur là mais c'est se tromper sur le profil d'Antoine Griezmann, même si c'est vrai qu'il a essayé de le faire un petit peu. On a déjà parlé avec Sam la dernière fois, mais on a une équipe qui n'a pas les qualités pour être forte en attaque placée. Donc à partir de là, Deschamps a été pragmatique, il a dit qu'est-ce que j'ai de la vitesse, j'ai de la verticalité, on va laisser la possession du ballon à l'adversaire, on va se créer des espaces verticaux et on va aller à 1000 à l'heure devant. C'est pragmatique.
On va accueillir Johan au 32-16. Salut Johan.
Salut à tous.
Bonsoir. Alors pour toi, le football de possession n'est pas mort, hein, et tu en veux pour preuve le Barça.
Bien sûr que non, bien sûr que ce football n'est pas mort. De toute façon, il y a plusieurs écoles dans le foot, dont cette école Guardiola, on va dire, Cruyff. Et puis il y a des fans qui aiment ça, et puis il y en a d'autres qui aiment le jeu de Deschamps, même si je trouve que c'est le plus nul qui puisse exister sur Terre. Hein, on a bien vu que de toute façon la Grèce a gagné l'Euro comme ça, on a bien vu que Mourinho a gagné avec l'Inter comme ça aussi. Donc ouais, c'est facile de faire ça. Je trouve que c'est le jeu le plus facile à faire. Tout le monde derrière, avec même le numéro 9 qui est Giroud qui défend. À l'époque, c'était Eto'o pour Mourinho à l'Inter qui.
Mais si tout le monde faisait ça, tout le monde gagnerait.
Malheureusement et heureusement pour les fans de foot comme moi, on a des équipes qui ont une identité qui ne veut pas l'abandonner, même si à cause de ça, des fois ils vont pas gagner, comme c'est le cas de l'Espagne, l'Allemagne comme vous citiez, le Barça aussi des fois.
Mais Jonathan, tu parlais de Mourinho tout à l'heure. Qui est capable, à part José Mourinho, de placer Samuel Eto'o arrière gauche en finale de Ligue des Champions?
Ça a duré sur une phase de jeu de 15 minutes. On en fait tout un tas de cette histoire-là, mais ça a duré une phase de jeu de 15 minutes, quoi. Sur un match, sur un contexte de match donné, ça, à la rigueur, c'est pas ça qui me choque chez José Mourinho, hein. Franchement, non, ça c'est un faux procès. C'est une légende urbaine. C'est trop facile. Mais oui, on peut lui faire des reproches, Mourinho. Sur la déclaration que j'ai fait, à un moment, quand il était devenu vraiment gentil, la caricature de lui-même, c'était vraiment, ses équipes ne proposaient plus rien. Rien, c'était on attend. Il se passe rien. À l'Inter, par contre, quand il avait l'Inter, tu fais référence à cet épisode-là, son équipe avait beaucoup de style. Après, un style qui était, ça te plaît ou ça te plaît pas, mais c'est une équipe qui avait beaucoup de personnalité. Mais, ça c'est facile, le truc d'Eto'o, faut arrêter.
Pourtant, c'est malheureusement.
C'était ponctuel.
La preuve c'est que d'autres l'ont fait, comme Deschamps par exemple avec Giroud. Mourinho, pour reciter Mourinho, l'a fait avec Drogba aussi. Drogba, certains matchs, notamment contre le Barça, on le voyait défendre aux abords de la surface. Donc pour moi, encore une fois, c'est vrai que c'est pragmatique, et puis qu'avec ce style de jeu, on peut être sûr de faire certains d'arriver loin dans une compétition, mais c'est moche.
Mais
c'est moche,
sauf que je suis totalement en opposition si vous comparez l'équipe de France 2018 de Deschamps aux pires heures de José Mourinho, hein. Parce que nos Bleus, alors ils ont un style, c'est ce qu'il est, mais au moins ils ont un style. Ils ont un style et des intentions. Tu vois la récupération du ballon, comment le bloc se positionne. Tu vois qu'on cherche quand même à aller de l'avant. C'est pas une équipe qui se contente de balancer des grands ballons devant. C'est une équipe c'est un style de jouer en contre et de miser sur la vitesse de ses attaquants. C'est peut-être pas le style que t'aimes, mais c'est un style. Et je pense qu'on a une équipe qui avait beaucoup de personnalité.
Les deux en même temps. Vas-y, Johan.
Je peux citer l'exemple de Liverpool à l'époque de Rafa Benitez qui gagne la Ligue des Champions. C'était une équipe qui défendait, mais qui avait un style offensif beaucoup plus prononcé que l'équipe de France, qu'est-ce qu'elle nous a proposé.
Alors c'était quoi le style de Liverpool?
C'est vrai que c'était des 1 contre 1. Il y avait plusieurs fois des 1 contre 1, des situations où les trois attaquants de devant, avec un milieu très fort, avec Steven Gerrard qui était capable de passer les lignes et en 1 contre 1 aussi. Tandis qu'on retrouve pas ça aujourd'hui avec l'équipe de France. Pogba, le nombre de ballons qu'il a perdu en 1 contre 1.
Oh, t'es dur, Johan.
Pourtant, c'est dur.
C'est pas vrai, t'es dur.
Tu as été joueur, tu préférais avoir le ballon, toi, ou courir après?
Ah, moi, je préfère avoir le ballon.
Non, mais je parlais à Samuel, je sais pas si t'as été professionnel.
Non, mais n'importe quel joueur préfère avoir le ballon. Et évidemment, je veux dire, c'est quand même plus agréable d'avoir le ballon dans les pieds que de courir après, parce qu'en plus, tu sais pas quand est-ce que tu le récupères, si c'est juste pour quand tu le récupères pour le perdre tout de suite, pour te mettre en bloc bas, pour attendre et essayer la contre-attaque. C'est effectivement, c'est pas la chose que les joueurs de ballon préfèrent. Maintenant, l'entraîneur nous prépare à ça et que finalement ce projet nous plaît, on voit qu'on gagne, mais on va adhérer à ça.
Bien sûr, il faut que ça soit cohérent. Je suis sûr que toi, par exemple, t'aurais joué à l'Atlético, ça t'aurait plu aussi parce que c'est cohérent.
Mais bien sûr.
Comme un chien, c'est un projet.
Non, mais et surtout pour pouvoir jouer comme ça, il faut que ton physique aussi te le permet. Il faut que tu sois prêt à jouer comme ça. Et si t'es prêt à jouer comme ça, tu trouves quand même une certaine jouissance à courir, à te déchirer.
C'est quoi l'équipe dans laquelle t'as le plus pris de plaisir?
Moi, je crois que c'est au Torino.
Au Torino, franchement, j'ai
vraiment pris du plaisir. On joue au ballon. On avait un entraîneur, je me souviens plus trop de son nom, mais qui était intéressant dans son.
Faut dire que t'as fait beaucoup de clubs, ça. Ça aussi.
Vas-y, Yoann. Si je peux me permettre, par rapport à ce qui vient d'être dit, prendre du plaisir à jouer comme ça, moi j'ai des doutes, parce que quand on regarde Mourinho, justement, qui est l'entraîneur.
Quand tu gagnes, tu prends forcément du plaisir, Yoann.
Qui propose ce jeu-là, on remarque que tous ces joueurs, au bout d'un moment, en ont eu marre.
Alors, ok, je n'ai pas envie de comparer Mourinho au Cholismo, parce que ça serait faire insulter Diego Simeone. Mais est-ce que tu as vu le documentaire sur l'équipe de France? Tu l'as vu?
Non,
L'épopée russe.
Tu l'as vu sur TF1, le documentaire?
Oui.
T'as vu ce qu'il dit, Griezmann? Il a dit, ouais, là, on défendait comme des chiens, on leur a mis un but, on a tout verrouillé,
Il a même dit qu'un entraînement avait été plus dur que ceux qui réalisaient à
Exactement. Mais il dit qu'après le match, il dit, ouais, on a défendu comme des chiens, on leur a mis un but, on a fermé la maison, et il a dit ça, je kiffe. Tu vois, les joueurs peuvent aussi prendre du plaisir.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Yoann, de nous avoir appelé au 32-16. L'after revient dans un instant. Petite respiration. Surtout, vous ne bougez pas. Oui, Sam?
Non, mais je veux dire, Christophe, il peut se renseigner, il peut demander à n'importe quel footeur. S'il est bien physiquement, sincèrement, qui vole, il va prendre énormément de plaisir à courir, parce que il aura toujours le temps d'avance, il aura toujours l'anticipation, et ça, c'est agréable, et il prendra plaisir.
Mais tu prêches un convaincu, hein, ça, ma petit niveau, c'est exactement ce que je ressentais il y a quelques années.
Allez, dis-tu l'enfermant sa veste comme ça, comme un boss là.
Une petite respiration, la fleur revient dans un instant, vous ne bougez pas, à tout de suite.
RMC, le super football show, jusqu'à 23h, c'est l'afterfoot, Christophe Plenet.
Il est 21h45 et vous êtes sur RMC. Vous êtes donc au bon endroit. C'est la suite de l'afterfoot avec Samuel Ipoix et avec Jonathan McCarty. Continuez de nous appeler au 32-16. Hein. On vous fera gagner d'ailleurs en fin d'émission avec le quiz 2 places pour le match de préparation à l'International Champions Cup. Ce samedi, ça se passera à l'Allianz Riviera de Nice. Un match très intéressant entre Chelsea et l'Inter de Milan. Place à présent aux infos du jour. Et les amis, on va démarrer avec un certain CR7, Cristiano Ronaldo. Donc il a signé à la Juventus Turin. Je ne vous apprends rien. Eh bien, sachez en tous les cas que Cristiano Ronaldo est un véritable jeune homme qui pète la forme. L'information avait déjà été publiée par la cellule médicale du Real Madrid en fin de saison dernière, mais la Juve a tenu à la confirmer rapidement après avoir recruté donc Ronaldo. Après les tests physiques, écoutez bien, effectués par le joueur portugais, les résultats sont éloquents, avec un taux de masse graisseuse de 7% contre 11% pour la majorité des footballeurs professionnels et une masse musculaire de 50%, soit 4% de plus en moyenne que le commun des footeux. CR7 aurait le physique d'un sportif d'une vingtaine d'années. Je veux vos réactions, les amis, là-dessus.
7%, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Ouais.
En compte, moi, j'avais 10, moi. Quand j'avais passé les trucs, c'est que...
Et aujourd'hui, Sam? Moi, j'arrive à me maintenir à 9,5. Mais 9,5, c'est une douleur à tenir. Hein.
Ah oui, non.
C'est une douleur, là, ça va être l'été, je sais que je vous remonte un peu, mais... Il a 33 ans en plus.
Non mais
c'est beau. Il aura 34 en 2019.
C'est beau.
C'est monstrueux.
Non mais quoi qu'on dise, ce mec-là, il vient d'ailleurs, quoi.
C'est
des monstres, quoi. Vous savez, ces joueurs-là, ils seraient pratiquement même indécents de les critiquer, quoi. Parce que j'ai comme l'impression que, avec une telle hygiène de vie, je crois qu'il va encore martyriser quelques défenses, et je pense qu'il va encore faire lever des foules. on peut plus, je veux dire, on peut plus les critiquer, ces mecs-là. Il a montré tellement par son professionnalisme. Il bat tous les records, ce garçon.
Et puis c'est un dingo, hein. Il faut savoir qu'il a, commandé une machine, donc, pour parfaire sa musculature et donc faire de la musculation à la NASA. Ça va arriver bientôt à Turin.
À la NASA?
Ouais,
c'est le Moscato Show qui leur envoie.
C'est un truc de dingo, parce que on peut parler de Zidane, on peut parler de Messi qui intrinsèquement sont nés avec voilà de l'or au bout des pieds. Si Ronaldo est devenu le joueur qu'il est aujourd'hui, c'est qu'il a bossé.
C'est un bosseur. Ouais, c'est un bosseur. Mais ça on le sait. Et ou plus qu'un bosseur, ce qui me surprend toujours, c'est que dans la tête, c'est costaud. Hein. Il a un mental, c'est un vraiment dit un mental de champion. Je trouve qu'on le dit un peu trop d'une manière, enfin ça devient galvaudé. Mais quand on dit mental de champion, je pense tout de suite à Ronaldo.
Jusqu'à quel âge il peut jouer
Mais justement, c'était ça. Je crois qu'il va battre des records. Hein. J'ai comme l'impression que ce garçon-là, j'ai comme l'impression que à 40 ans, en 42 ans, on pourra encore le voir. Hein. Si c'est pas peut-être
sauf dans blessure, sauf ouais.
Ah ouais, j'ai comme l'impression que. Il est parti peut-être pour dans sa tête, il doit se dire je vais jouer au moins jusqu'à 40 ans pour battre encore des records, hein, parce que
regardez l'évolution physique, hein, pour ceux qui nous regardent sur BFM Sport, sur RMC ça va être plus compliqué, mais c'est vrai qu'on voit des images de lui à Manchester. Il avait 17-18 ans, hein, quand il est arrivé du Sporting Portugal. C'était un gamin, bien clairement. Sûr, ouais. Aujourd'hui c'est Hulk, c'est Terminator.
Non, c'est Hulk. Non, mais il est pas non plus. Tu sais,
il a changé.
Pour un joueur de foot, il est costaud, mais pour un mec qui fait
la salle, il est pas non plus.
Mais non, mais par contre, les gens qui font de la muscu, ils le savent. 7%, c'est incroyable. Et je sais même pas comment tu fais pour tenir, quoi.
C'est Patrice Evra qui déclarait j'ai été invité à déjeuner chez Cristiano Ronaldo. Je ne veux plus jamais y remettre les pieds. Il y a du blanc de poulet et de la salade.
Ah ouais.
Bah c'est ce que je mange à tous les repas, mais j'arrive pas à descendre à en dessous de 9, ça me semble déjà être un seuil.
Mais t'es pas Cristiano Ronaldo.
Non mais ce que je veux dire, c'est que c'est incroyable. Mais c'est même pas. En fait, ce qui est incroyable, c'est même pas juste de descendre à 7%, c'est de le tenir. C'est de le tenir à l'année. Et tu le vois, en fait, si on parle de ça, c'est parce qu'on le voit dans son jeu. La tonicité qu'il a, l'année dernière encore, quand il met se retourner, là. Faut en avoir, hein. Faut être super gainé. Faut être tout en muscle et tout en puissance. Donc, ouais, non, c'est remarquable. Non, mais... Et je suis d'accord avec toi. Enfin, j'ai hâte de, enfin, c'est un mec, surtout, c'est dur de le critiquer.
Je crois qu'il a compris une chose. Je crois qu'il a compris que lui, pour être performant, il est obligé d'être aussi mal au niveau physique. Il peut pas forcément, c'est pas un joueur.
C'est ce que je disais, c'est pas un Messi, c'est pas un Zidane.
C'est pas un Messi, voilà. C'est-à-dire que, il a besoin d'être costaud physiquement.
Ouais, je suis pas en train de dire que c'est un manchot, hein, loin de là, mais ça n'est pas de qualité. C'est son corps.
Je pense qu'il était moins doué, il est moins doué que Messi, hein, intrinsèquement. Il est moins doué que des joueurs, même comme non, c'est pas le même poste, on peut pas dire ça, mais non, il est moins doué intrinsèquement que Messi. Mais ce qu'il fait, c'est que c'est un bourreau de travail et qu'il a un vrai mental de champion. Ah,
ouais. Sans transition, on passe à la présentation des deux premières recrues de l'Olympique Lyonnais. Ça se passait donc cet après-midi au Groupama Stadium. Il s'agit bien sûr de...
Le formidable outil.
De Léo Dubois et de Terrier.
Il y avait Louis en plus.
Voilà, merci Jonathan. Les deux premières recrues donc de l'OL, des recrues qui ont été anticipées bien en amont. Qu'est-ce qu'on peut attendre désormais du Mercato Lyonnais? On sait que Jean-Michel Aulas a déclaré vouloir deux ou trois joueurs qui ont brillé en Russie lors du dernier mondial.
Un défenseur central. Yeremina, 30 millions, très bonne idée. Qu'ils y aillent. S'ils ont les sous, il n'y a pas de souci. Mais il leur faut un défenseur central.
Oui. Il a déclaré pas vouloir se presser non plus pour ne pas avoir à surpayer les joueurs. Le temps est le meilleur atout de Jean-Michel Aulas dans ce mercato.
De toute façon, ça fait quelques années quand même que Lyon s'appuie quand même sur des joueurs, on va dire, qui sont un peu en dessous, quoi. Ils essayent plus ou moins de les finir dans leur formation. Ils essayent de faire des coups, essayer de bien vendre après par la suite, ou d'essayer de repartir avec des joueurs qui étaient peut-être un peu déclinants pour pouvoir justement comme le celui qui vient de Manchester là.
Depay
qui est d'ailleurs au début qui avait un peu flotté, et l'année dernière il a fait plus ou moins une super bonne fin de saison.
Tu sais pourquoi? C'est grâce à l'after.
Ah,
vous savez pas ça, hein?
Ils en racontent.
C'est parce que c'est grâce à notre lobbying que Genesio est passé en 4-4 de losange et qu'il a mis Depay dans l'axe. C'est pour ça qu'il s'est mis à flamber.
Ah,
il l'a dit en conférence de presse. Il a dit si vous voulez nos compos, demandez à l'after.
T'es un grand malade.
Bah, il l'a dit.
Apparemment,
il était peut-être ironique, hein, je sais pas, mais en tout cas, il l'a dit.
Nabil Fekir devrait rester, mais est-ce qu'on doit s'inquiéter quand on est supporter lyonnais de ce début de mercato pour l'instant?
Apparemment, il veut partir toujours. Donc on sait pas, enfin à la rigueur ça c'est le lien rêvé avec le débat qu'on va avoir après sur la parole dans le foot, sur ce qui est définitif ou pas dans le foot, mais apparemment il veut partir. Le truc c'est que il veut partir, OK, mais après ce qui s'est passé avec Liverpool, malheureusement, je pense que ça a quand même entaché un petit peu sa réputation sur du moins pour ce marché. Je pense que les clubs vont être un petit peu plus frileux pour poser les 70 millions sur la table pour un joueur qui aurait probablement apparemment échoué à une visite médicale.
Non mais et surtout moi ce qui m'inquiète par rapport à ça, j'espère justement que ça va pas justement perturber sa saison, parce que un joueur qui a envie de partir, est-ce qu'il va pas traîner les pieds? Maintenant c'est un champion du monde, il est obligé d'avoir un statut qui il peut pas aller en dessous de ça. J'espère que ça, si éventuellement il devait rester à Lyon, que ça soit oublié et qu'il reparte du bon pied, quoi, parce que bon ben Lyon a besoin d'un fakir vraiment.
Mais de toute manière.
D'un très bon niveau.
On a une envie, tous, je pense que c'est la même, c'est qu'il reste à Lyon, hein, qu'il reste en Ligue 1. C'est quand même un joueur qui est délicieux à avoir joué tous les week-ends. C'est un artiste, il est champion du monde. Il sort d'une très belle saison, mais qu'il ne faut pas l'oublier, était un petit peu la saison de son retour. Il avait enchaîné les blessures. Moi, ça me dérangerait pas de l'avoir faire une, voire deux années de plus dans son club formateur. Franchement, voilà quoi. Qu'il reste, ça a pas marché avec Liverpool, tant pis, reste à Lyon. T'as des belles choses à faire. Tu as joué la Ligue des Champions dans un schéma qui est construit pour toi, en losange, avec toi à la pointe du losange, reste à Lyon.
En France, en ce moment, on a l'affaire Benalla. En Allemagne, il y a l'affaire Ozil. Les suites de l'affaire Ozil avec une polémique qui n'en finit plus d'enfler. Alors que toute l'Allemagne vit au rythme des déclarations suite à la décision donc de Mesut Ozil de mettre un terme à sa carrière internationale, une réaction se faisait particulièrement attendre. C'est celle de Joachim Löw, le sélectionneur, qui a déclaré qu'il n'avait pas été mis au courant de cela. En parallèle de ça, donc il y a Erdogan qui a pris son téléphone, qui a appelé Mesut Ozil pour le soutenir. Vous en pensez quoi? Ça a pas un petit peu trop traîné quand même?
Qu'est-ce qui a trop traîné?
Cette affaire.
Donc sous quel angle? Sous l'angle de Zil?
On en fait pas un petit peu trop quoi?
Non mais moi je trouve qu'on en fait trop. Je crois que j'ai dit, parce que je pense que encore une fois beaucoup de gens se permettent de critiquer Ozil par rapport à son choix, mais on remet pas les choses dans leur contexte. Le contexte c'est que Erdogan a été invité par Royaume-Uni par Elisabeth II et Theresa May, la première ministre anglaise.
Non mais ça on en a parlé, mais, ça monsieur, oui, je suis d'accord, mais aujourd'hui donc Recep Erdogan, oui, il a déclaré saluer la décision de Mesut Özil de quitter la sélection allemande. Est-ce qu'il est dans son rôle?
Il est dans son rôle parce que bon ben c'est par rapport à lui qu'on le critique, parce qu'il a effectivement fait une photo pour moi je comprends pas, par politesse il fait une photo, oui, pourquoi
par politesse il... j'exagère, je grossis le trait, mais par politesse t'aurais fait une photo avec Staline?
Non mais attention, Johan, si tu m'invites chez toi, il y a Staline.
Mais tu vas? Si Staline t'invite chez lui, tu vas?
Mais attends, si toi tu m'invites chez toi...
Non, moi attention, je suis pas Erdogan, je le prends mal ça.
Non mais non,
j'ai dit... Après il me compare à Laurent Saint-Placé maintenant.
Non, c'est pas Staline qui l'a invité, c'est pas Staline qui l'a invité. Regarde, il y a quelques années de ça... Kadhafi a été invité ici à Paris par la présidence. Si tu es invité,
c'est un scandale.
Mais tu aurais pas fait une photo, tu serais allé.
Non, j'aurais pas fait de photo, j'aurais pas été.
Arrêt de jeu dans l'hypocrisie. Mais bien sûr, déjà tu serais allé.
J'ai des convictions politiques et j'aurais pas été. Je n'y serais pas allé.
Oui, mais ça c'est toujours facile de le dire par après. Moi, je pense que sincèrement, par politesse, tu y vas. Par politesse, bon, mais tu fais une photo. Je veux dire, si tu ne dis pas, je sais pas, voter pour un tel. Voilà, je veux dire, il y a rien de mal là-dedans.
Déjà,
sincèrement, moi.
C'est un sujet qui est compliqué. On sait le contexte qu'il y a autour de la Turquie. On sait les relations qu'entretient la Turquie avec le reste de cette zone-là du monde. On sait les tensions qu'il peut avoir parfois en Allemagne autour de la communauté turque. Je pense que, d'une part, accepter l'invitation d'Erdogan, c'était maladroit.
C'est pas Erdogan qui l'a invité. C'est le Royaume-Uni, c'est la reine Elisabeth II et qui l'a invité. C'est eux qu'il faut critiquer.
On va clore le débat aux îles. On va parler rapidement d'un autre numéro 10. Je sais pas si vous avez eu cette information. C'est Diego Armando Maradona, El Pibe des Oro, donc qui a été interviewé par la télévision argentine au volant. Il était ivre mort. On a tous vu ce qui s'est passé en Russie. Il va falloir qu'il arrête lui aussi un petit peu, qu'il se mette au frais quelques
Non, mais semaines, je pense que mois. Franchement, Maradona, il faut se contenter le joueur merveilleux qu'il a été. Franchement, moi, il m'a fait rêver. Il nous a donné des larmes aux yeux tellement c'était beau à voir jouer. Je crois que la caricature de lui-même, là, il faut oublier, quoi, parce que là, ça devient un peu désastreux.
Il faut qu'il reste donc joueur et en retrait. Allez, une petite respiration et l'after revient pour la deuxième période. À partir de 22h, on aura plein de belles choses à vous à raconter. Vous ne bougez pas, vous êtes sur RMC, vous êtes au bon endroit. À tout de suite.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot.